Campus burada
98.1
radyosunda 88.1'desiniz.
Sport Campus 13h-14h avec Alain, Nicolas, Joris, présenté par Mélissa.
Et bonjour à toutes et à tous, il est 13h, nous sommes mercredi, ce qui veut dire que c'est l'heure de Sport Campus. Petit tour de table pour commencer rapidement, puisqu'on retrouve comme d'habitude nos fidèles chroniqueurs avec Joris et Nicolas. Pour commencer, salut à tous les deux.
Salut Mélissa, salut tout le monde.
Comment allez-vous ?
Bonjour.
Et on retrouve bien sûr Alain, salut Alain.
Salut.
Comment ça va aujourd'hui ?
Nickel aujourd'hui.
Et aujourd'hui dans Sport Campus, on accueille de nombreux invités puisque nous recevons aujourd'hui 3 athlètes. Il s'agit de Marie-Julie Bonin, spécialiste du saut à la perche, Maroussia Paré, spécialiste des épreuves de sprint et Solène Compère, spécialiste du 100 mètres. Et bonjour à toutes les trois, comment allez-vous ?
Bonjour. Ça va, merci beaucoup de nous recevoir.
Bah avec plaisir, et vous êtes venu aussi accompagné de Alain Lastecquer, entraîneur de Maroussia Paré, si je ne me trompe pas. Bonjour Alain, comment ça va ?
Bonjour, bah écoutez, merci de nous recevoir, ça vous fait bien plaisir. On va essayer de passer un bon moment.
On va essayer de passer un bon moment et je vous propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je te laisse la parole Alain, mais tu as quelques petites annonces à nous faire pour débuter.
Ouais, chose promise, chose due, j'avais dit à Marion Marrière et à Laura Lewis qu'on... On parlerait de leur manifestation. Donc, elle aura lieu le 16 octobre de 9h à 18h au gymnase Stélin à Bordeaux-Codéran. C'est de la gymnastique rythmique et c'est 2 euros l'entrée. Hein, ça vaut le coup d'y aller. Quoi. Voilà. On peut commencer ?
On peut commencer. C'est
mais
parti.
Vous vous présentez ou je vous présente ? Comment on fait ? Comment vous voulez ?
Allez, vas-y, lance-toi. Alors, je présente.
Mais autour du micro, ça fait plaisir parce qu'on a, des... Marie-Julie Boulin qui sort des championnats d'Europe cet été, ouais, qui a fait de la perf. On va faire l'après. On a Maroussia Paré qui est bien importante pour Paris 2024 et j'espère que Solène Compère va l'accompagner, ça serait bien. Maroussia Paré, c'est double médaille de bronze au championnat d'Europe junior sur 4x100 et 200, tu m'arrêtes si j'ai dit des bêtises, hein. Double sélectionnée au JO, c'est ça ? Voilà, finaliste à Tokyo du 4x100, championne du monde sur 4x200 plus diverses médailles européennes, c'est ça ?
C'est
ça. Ouais, j'ai étudié mes dossiers. Solène Compère, elle a 19 podiums nationaux et 4 internationaux.
C'est ça.
Elle est vice-championne de France élite sur 60 mètres et en 2022. Elle est troisième championne de France élite sur 100 mètres et elle vient de gagner les Jeux méditerranéens en 2022.
Exactement.
C'est une belle performance.
Merci.
Et Marie-Julie Bonin, qui nous a éclairé nos écrans cet été au championnat d'Europe avec son sourire, qui a fait courir Alain Solomon fort. Elle est vice-championne d'Europe junior en 2019. Elle est en saut à la perche. Hein. En 2022, elle est championne de France espoir. Elle est championne de l'Open de France. Elle est vice-championne de France élite. Elle est finaliste dans les championnats d'Europe cet été où elle a battu son record.
Oui.
Et où elle m'a mis en colère parce qu'elle aurait pu le battre.
À 65,
fois.
Oui. Très puissant.
Elle m'a mis en colère, j'ai failli casser la télé. Ouais. Voilà.
Et moi, ma perche.
Voilà nos invités. Alors, on avait dit tout à l'heure, on en a parlé un peu off, que pour faire du sport, il faut un club. Et j'ai oublié Alain Lastecquer, qui, alors lui, il est un peu spécial parce qu'il a tout sauf être quelqu'un de l'athlétisme. Parce que je crois que tu as démarré au rugby, toi.
Alors, pas tout à fait. J'ai commencé au rugby après l'athlétisme parce que à l'époque, c'était dans les années où personne n'était né ici. Je bats le record des Landes du 100 mètres en junior et le Stade Montois se rapproche de mes parents et de moi-même pour me faire signer au club de rugby du Stade Montois. Donc j'ai quand même commencé par l'athlétisme.
Tu as eu quelques perfs au rugby, non ?
Au rugby, j'ai pas eu de. J'ai eu peut-être plus de récompenses en tant qu'entraîneur d'équipe qu'en tant que joueur. En tant que joueur, j'étais demi-finaliste de championnat de France et puis demi-finaliste du Dumanoir à l'époque où il existait. Mais. Après, oui, des sélections, mais pas de titre en particulier.
Donc, tu cours vite, tu t'en jettes un ballon et t'en y cours Forest.
On m'a dit cours, ne te fais pas rattraper, puis voilà.
Donc, comme je disais, on a besoin d'un club pour pratiquer et j'aurais aimé que nos trois invités un petit peu nous fassent connaître le club où vous pratiquez. Je crois qu'il y a Talence et puis...
Bordeaux-Athlée,
donc à tour de rôle, si vous pouvez nous en parler un petit peu. Ça serait bien. Maroussia ?
Bah allez, je me lance. Du coup, avec Solène, on pratique à l'US Talence. Moi, j'ai rejoint le club en septembre 2014, avant j'étais à l'US Dax, c'est là où j'ai rencontré Alain et c'était déjà mon coach quand j'avais 15 ans. Et ensuite, donc j'ai fait mes études de psycho à Bordeaux et donc c'était l'occasion aussi pour moi de changer de club et de rejoindre un club qui avait une vraie politique de haut niveau aussi. Donc voilà, ça a été un beau tremplin dans ma carrière aussi de rejoindre une structure orientée performance et haut niveau.
Et pourquoi cette marque de fidélité avec Alain ?
Ben écoutez, très honnêtement, moi j'ai aujourd'hui, hein, je le dis, j'ai pas de raison de changer. Mon équilibre avec Alain fonctionne très bien. Il m'a amené à un niveau absolument phénoménal et je sais qu'on peut aller encore plus haut ensemble et j'ai entière confiance en lui. On a une relation aussi qui dépasse le sport, mais si jamais un jour je dois changer de coach, j'ai pas envie de forcément de retrouver cette relation-là avec quelqu'un d'autre. Ça s'est fait tout seul. Mais pour moi, c'est un vrai pilier dans ma carrière et j'ai envie de le garder encore un peu avec moi quand même.
Solène, tu es du même club, je crois, non ?
Oui, je suis du même club, mais je suis arrivée je suis arrivée sur Bordeaux en septembre 2017 et j'ai rejoint le club en septembre 2018. Avant, j'étais à l'UAO 31 et je me suis licenciée à l'US Talence parce que j'habitais à Talence et que, pareil que Maroussia, il y a une politique de haut niveau, d'accompagner les athlètes comme il faut. Et c'était aussi un club familial, donc c'est sympa d'être licenciée dans ce club.
Marie-Julie ?
Alors moi, c'est Bordeaux Athlé, donc les concurrents un peu de Talence. Mais moi, ça fait 7 ans du coup que je suis licenciée à Bordeaux. Et en fait, de base, j'ai commencé en UNSS et c'était le club juste à côté de mon collège. Et bah, j'ai été directement amenée vers le club de Bordeaux, envers qui je reste fidèle.
Alors, Marie-Julie, en off, tu m'as confié, bon, t'as fait du saut à la perche,
oui.
T'as voulu arrêter.
C'est ça.
Tu peux nous raconter un petit peu ça, parce que c'est intéressant au niveau du sport. Elle a subi des étapes assez diverses, oui, dans sa carrière et aujourd'hui, elle est au niveau. Donc, tu peux nous expliquer ça un petit peu ?
Ouais, en fait, en 2019, pendant la saison en salle, j'ai fait une chute. Une chute qui, sur le moment, a créé des blocages, mais que je n'avais pas identifié et que je n'avais pas relié directement à cette chute-là. Donc, progressivement, j'ai commencé à avoir du mal à sauter, à avoir de l'appréhension. Ça s'est généralisé et je n'arrivais plus du tout à piquer à l'entraînement. Donc,
piquer, c'est-à-dire ?
C'est déclencher un saut. Donc j'arrivais plus du tout à déclencher de saut, j'arrivais, je faisais des lignes droites et je courais. Et on a essayé de trouver des solutions avec mon coach, j'ai fait de l'auto-hypnose, de l'hypnose, de la préparation mentale, tout ça. Et ça a bien fonctionné, ce qui m'a permis en fait à la suite de cette blessure, donc c'était l'hiver 2019. L'été 2019, je suis vice-championne d'Europe, sauf que à la suite de ça, bah, ça s'est redéclenché. Encore des blocages et là c'était encore plus ancré et plus difficile à gérer. Donc j'ai vu un préparateur mental, c'est pas vraiment exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là, je pense. Et finalement, je pense que le changement de coach a été un déclic. Sur le moment, j'avais pas identifié comme ça non plus. C'est-à-dire que je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu'il y ait des changements et que je teste autre chose que ce que je faisais avec mon coach. Mais je pensais pas que ça aurait cet impact-là. Vraiment, si en début de saison, on m'avait dit « tu finiras au championnat d'Europe avec 4m50 », j'aurais jamais cru.
Donc, et voilà. Tu l'identifies quoi ? Au corps qu'on avait marre ou à la tête qu'on voulait plus quoi ?
C'était trop de pression. Je pense que c'était de la pression parce que j'avais une relation très père-fille avec mon coach. Et en fait, j'allais à l'entraînement, je me disais, il faut que je saute. Et j'étais complètement crispée, il faut que je saute. Et je le faisais même plus pour moi, c'était pas pour
plaisir.
Oui, voilà,
tu le faisais plus pour toi quoi.
Oui, non, c'est ça. J'avais peur qu'il me fasse la tête, tout ça. Et en compétition, j'arrivais pareil, très, très crispée. Mais c'était les seuls moments où j'arrivais à sauter en fait. J'arrivais que à sauter en compétition et à l'entraînement, mais incapable. Donc ça pendant 2 ans et demi, 3 ans.
Alain, en tant que coach, quand tu écoutes ça, là, quand elle dit « je sautais plus pour moi, je sautais pour le coach », ça te fait penser à quoi ça ? Tu le vois comment ça ?
Non, mais je pense que on est tous confrontés à ces dilemmes-là quand on est entraîneur ou entraîné. Mais quand on veut être entraîneur et qu'on veut le rester, on le fait pas pour soi quoi. Autrement c'est râpé. En échange, on ne demande pas des performances. Non, on est là pour soutenir, on est là pour aider, on est là pour exploiter des voies, pour trouver des trucs, trouver d'autres façons, intéresser. Mais c'est l'athlète avant tout. Nous on est là en second quoi. On fait en second, en troisième, peu importe. Mais ouais, mais ça peut arriver sans qu'on le veuille en plus.
Oui,
hein.
Mais c'était bienveillant. C'était de sa part,
c'est
c'était
ça le problème. Il faut faire très attention.
À l'image d'autres sports, il y a des formations d'entraîneurs d'athlétisme dans diverses disciplines ou alors on est bon, on est champion et puis voilà, on se transforme en coach.
Non, c'est pas tout. Il y a des degrés d'entraîneur, je ne sais plus, de premier, deuxième, nationaux, je ne sais plus quoi, qui sont basés sur la connaissance de l'activité et sur des techniques d'apprentissage et qui sont intéressantes à ce niveau-là. Après, le vrai travail de coach, non, il est ailleurs. Il est sur la connaissance de l'individu, sur la connaissance du rapport, sur ce qu'on est avant tout et en y mettant de la bienveillance, quoi. Enfin, en essayant.
Marie-Julie, tu es avec un grand monsieur de la perche actuellement, avec Mathieu Dossévi, c'est ça ?
Damiel Dossévi, c'est ça.
Damiel aussi, voilà, des Mathieu.
C'est ça. Mais justement, en fait, ce qui est intéressant avec Damiel, c'est qu'il a été athlète de très haut niveau et il a vécu le sport de haut niveau et il coach comme on aurait aimé, enfin, comme il aurait aimé être coaché. C'est-à-dire qu'il a beaucoup de distance et ça, c'est ça que j'aime en fait avec lui, c'est que. Il met pas du tout de pression. J'étais partie au championnat de France, là, le championnat de France espoir. À aucun moment, il m'a dit il faut que tu sois championne de France. J'y suis allée, il savait que j'avais mon objectif en tête. Et il y a beaucoup de recul. Il m'impose pas de pression en plus. Et il sait que dans tous les cas, je vais prendre du plaisir, j'ai besoin de m'amuser. Et c'est comme ça que je suis la meilleure et que je performe.
Il a confiance à tes capacités, il les connaît, exactement. Il a besoin de te les répéter.
Oui, mais c'est exactement ça. On bosse à l'entraînement pour avoir le meilleur des être la plus performante possible. Et en compétition, on lâche les chevaux et on voit.
Et Solène, à toi.
Par rapport à ma relation avec Alain.
Oui.
Mais du coup, moi, j'ai commencé dans un club très familial, très petit. Donc, mes deux coachs, j'avais une relation pareille que Marie. J'étais très proche de mes entraîneurs. Ça m'a pas mis de pression, mais quand je suis partie, ça a été un peu plus compliqué de m'adapter ensuite à mes autres entraîneurs. Et avec Alain, j'ai trouvé un bon équilibre et ça se passe très bien. Pareil, il ne met pas de pression, il sait très bien quels sont mes objectifs. On n'a pas de barrière, mais voilà, ça marche très bien, on a une très bonne relation.
C'est important, c'est le plus important, la relation coach-athlète, c'est le plus important.
Hein. On passe beaucoup de temps avec le coach, donc si ça se passe mal, il faut avoir une certaine confiance en lui et il faut qu'il ait confiance en nous aussi.
Et on arrive des fois à faire des. Enfin, moi je suis coach au niveau football, donc c'est au niveau collectif. Mais on arrive à faire des choses des fois quand on est près des joueurs, des athlètes, ou qu'on arrive à comprendre ce qu'il y a dans la tête avant, qu'on est capable de faire avec le corps, arriver à faire des choses qu'on n'imaginait pas au début, c'est ce qui se passe quoi, en fait. Hein.
On imagine bien que les succès sont plus facilement gérables que les échecs dans cette relation, mais. Pour autant, les succès, ce n'est pas toujours positif non plus. Quoi.
Alors, je ne sais pas si on peut dire que ce n'est pas positif. En tant que sportif et en tant qu'entraîneur, quand la perf arrive et que le succès entre guillemets est là, je pense déjà à la suite. Je dis, punaise, la prochaine fois, voilà, il n'y a jamais rien d'arrêter. Et le but du jeu, c'est de dépasser à chaque fois ce qui a été fait. Et plus le niveau est haut, et plus il faut aller encore. Et donc, ce n'est pas une situation, le succès, ce n'est pas toujours une situation de confort, ni pour l'athlète, ni pour l'entraîneur. Enfin, je ne sais pas comment vous le vivez, vous.
Complètement d'accord.
Mais c'est, moi, je l'ai vécu comme ça en tant que sportif et en tant qu'entraîneur.
Mais il n'y a pas les coachs championnites qui sont là pour gagner, qui sont là pour dire il faut qu'elle gagne quoi en fait c'est il y a pas ça ça n'existe pas
si
ça existe
oui, bien sûr.
Et souvent ça détruit non surtout à votre niveau à vous
mais il y a des coachs après il y a aussi les parents il y a des parents qui sont vachement derrière leurs enfants qui et c'est vrai qui ça peut être destructeur pour eux après quand c'est le coach pareil hein, c'est compliqué à gérer après Alain il est pas comme ça tant mieux
oui c'est le papa
tant mieux des fois il a plus de recul que nous aussi par rapport à nos défaites et ça nous aide parce que quand on est dans le mal d'avoir perdu ou d'avoir fait une mauvaise performance il a ce recul pour nous aider à nous aussi relativiser sur la performance et avancer parce que sinon des fois les compétitions ça s'enchaîne sur deux jours faut savoir passer à autre chose assez rapidement quoi.
On a parlé du coach, on a parlé des parents. Et vous, est-ce que vous vous mettez de la pression vous-même ? Est-ce que comment vous gérez ce rapport à vous-même en fait dans votre sport et dans la compétition ?
Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que en fait, quand on est sportif de haut niveau, on est un peu comme dans un tourbillon. On doit penser à plein de choses et en fait, on n'est pas uniquement sportif de haut niveau. On gère d'autres choses à côté. On s'implique physiquement, mais aussi psychologiquement, émotionnellement. On fait des choix aussi. Ça implique aussi notre entourage. Donc, c'est vrai que c'est un cocktail qui peut être très explosif aussi et qui peut parfois nous porter préjudice. Alors après, j'ai envie de dire que il va falloir s'adapter, développer des ressources, les consolider parce que sinon les expériences vont le faire pour nous en fait et on ne pourra pas pratiquer notre sport au meilleur niveau, on ne pourra pas progresser dans ces conditions. Donc avec l'entourage et surtout le rôle du coach aussi, on apprend c'est une vraie relation, c'est une co-construction en fait de la perf, même si on fait des sports indiv, on n'est pas tout seul, on s'aide constamment. Et ensuite, effectivement, donc y a l'entourage, mais après l'athlète, je pense, qui vise le haut niveau, voit bien qu'au bout d'un moment, il est limité. Enfin voilà, moi j'ai pléthore d'exemples où j'avais du mal à sortir en fait de ma tête un échec. Et tu sais Alain, je repense à la fois où je voulais pas courir, tu sais, à Aubonne, parce que la veille, voilà, ça s'était mal, l'avant-veille, ça s'était mal passé. J'ai fait ma meilleure rentrée sur 200 mètres et je voulais pas courir. Et la finale, je lui ai dit, mais je ne veux pas courir la finale alors que je venais de faire ma meilleure rentrée en salle. Et en fait, on se dit, mais Marussia, elle est complètement déconnectée, en fait. Enfin, comment est-ce que c'est possible? Et au final, voilà, c'est parce que, ben, on... Enfin, voilà, on prend des coups, en fait, vraiment.
Un trop-plein.
Un trop-plein, et voilà. Mais après, on se rend compte ben, qu'effectivement, il y avait des choses positives qu'on n'a peut-être pas savourées sur le moment aussi, mais qui sont là, qui sont des vrais marqueurs aussi d'amélioration. Et c'est sur, les... c'est sur ça qu'il faut capitaliser, en fait, pour progresser, aller mieux, ouais.
Quand tu parles, on a le sport et on a l'appris, on a l'habitude ici dans notre émission de savoir un petit peu ce que font nos invités en dehors de leur sport. Et vous, c'est quoi? C'est les études? C'est quoi?
Bah, du coup, moi, je suis psychologue. Mmh. Voilà.
Marie?
Donc, tu travailles?
Je travaille, oui, ouais. En tant que psy.
Moi, je suis en Master 1, donc en école de commerce dans le sport à Amos et sur Bordeaux.
Mmh. Et je suis éducatrice spécialisée. Je l'ai pratiqué pendant un an et là j'ai fait le choix de le mettre de côté parce que c'est très prenant psychologiquement et on s'implique beaucoup. Et quand on s'implique beaucoup dans son travail et dans le sport, il y a un moment où il faut faire des choix quand on veut accéder au très haut niveau.
Ma fille est éducatrice spécialisée, c'est pas facile.
Exactement. C'est pas facile. Donc voilà.
On l'a dit, il y a une pression qu'on se met soi-même. Il y a aussi la pression. Peut-être des entraîneurs, alors pas d'Alain visiblement, mais certains entraîneurs mettent la pression aussi. Mais il y a une pression dont on n'a pas parlé, c'est tout ce qui est médiatique, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., qui est de plus en plus difficile à gérer pour les sportifs. Comment vous gérez ça au quotidien? Est-ce que c'est difficile?
Des fois, oui. Des fois c'est difficile, des fois on se prend des commentaires très désagréables, voire méchants. On comprend pas forcément pourquoi, on comprend pas, enfin on a l'impression qu'on a presque détruit la vie des gens, des fois dans certains commentaires tellement qu'ils sont durs. Après on a des personnes qui pensent qu'on a une relation de proximité aussi, donc on a soit d'un côté les haters, soit ceux qui nous aiment beaucoup beaucoup. Et donc,
beaucoup trop,
exactement. Et en fait, on est des sportifs, on est des humains. On n'a pas envie non plus pas forcément de décevoir, mais je veux dire, voilà, il y a quelqu'un qui nous envoie un message, par exemple, très gentil, on va peut-être lui répondre. Et puis ensuite, voilà, on essaie de faire en sorte que notre carrière aussi, elle soit vécue avec le maximum de personnes et que ce soit partagé du mieux possible, quoi. Donc c'est vrai que le fait d'être exposé, et encore c'est une notoriété qui est quand même assez relative comparée à d'autres sports, mais déjà à notre niveau on a quand même cette image qui est discutée, qui est jugée, qui est voilà, où on sait qu'on va avoir des retours, des commentaires, des fois positifs, des fois moins. Alors c'est vrai que voilà, moi à chaque fois mes proches me disent ne fais pas attention et tout ça, mais enfin le commentaire il est là, je l'ai lu, je l'ai en tête, donc oui, il y a des fois où j'aurais très envie de répondre, ça m'est arrivé. Je ne sais pas si c'est la meilleure des solutions. Des fois, il y a des personnes directement sur les réseaux qui s'en chargent aussi. Donc, le mieux, je pense que voilà, effectivement, ça serait... honnêtement, je ne sais pas, qu'il y ait un filtre qui se rende compte que voilà, la personne n'est pas très correcte et bloque le commentaire. Mais une fois qu'on l'a sous les yeux, en fait, on l'a vu, quoi. Donc,
là, tu parles des commentaires réseaux sociaux, c'est ça?
Oui,
donc,
c'est ça.
Dans tous les cas, tu ne sais pas ce que la personne qui écrit derrière, elle est capable de parler de ton sport. Ça trouve, elle n'y connaît rien du tout.
Ah, mais complètement. Mais dans la plupart des cas...
Et en fait, ce qui se passe, je prends le cas, quand tu es champion du monde du 4x200, tu représentes la France. Ouais. Tu as dû recevoir plus de compliments que de choses désagréables, je pense. Non.
Alors, on est à la radio, on ne voit pas, mais en fait, je suis métisse,
oui.
Donc on a reçu des commentaires racistes en fait, en disant que c'est pas l'équipe de France, c'est l'équipe d'Éthiopie.
Ça c'est pour le foot, c'est pour tout. Voilà. Mais imagine si tu avais fait troisième, tu représentais le coq français, tu fais troisième, là tu es défoncé, quoi.
Ça dépend. Très honnêtement, je pense que Marie-Julie, tu as eu de très beaux commentaires parce que voilà, même si elle n'a pas eu de médaille, elle a quand même eu une place qui était très belle à voir et à suivre. Donc, je pense que voilà, ça dépend. Après, de toute façon, si on veut nous casser, on peut nous casser surtout. Mm-hmm. Quand on fait les interviews d'avant compétition, on dit, bon ben voilà, j'aimerais faire ci ou ça. Il y en a qui se mouillent, ils vont dire un chrono, peut-être une place. Mm-hmm. On ne le fait pas derrière, on est, enfin, excusez-moi du terme, on se fait détruire. Mm-hmm. Donc, en fait, ça dépend. Et quand on réussit et qu'on on est fiers de nous, etc., il y en a qui vont dire oh, vous la pétez, mm-hmm. machin. Donc en fait, voilà.
Ils ne sont jamais contents.
Mm-hmm. Exactement. En fait,
oui, mais contenter tout le monde, que... tu ne pourras jamais.
Exactement.
T'es médiatique, voilà. T'es médiatique quelque part. Et donc, être ami avec tout le monde, ce n'est pas possible.
Exactement.
C'est mais tu parlais de Marie-Julie tout à l'heure. Bon, moi, c'est l'athlétisme, c'est un sport que j'aime beaucoup. Je la suis beaucoup. Je suis beaucoup ce sport et j'ai eu donc Marie-Julie cet été. En fait, l'équipe de France, ce n'était pas bien. Il faut dire, dire les choses. Au niveau des médailles et tout, ce n'était pas ça. Donc,
ça fait quelques temps que ça dure et peut-être qu'il y a une attente peut-être trop forte aussi.
En fait, toi, tu as reçu, parce que c'est vrai que tu as reçu beaucoup, beaucoup de bonnes choses, je suppose. Mais pourquoi ? Parce que le citoyen lambda, d'ailleurs, sa télé, qui voit que le coq français, le bleu, blanc, rouge, il s'est raccroché à ce qu'il pouvait.
Aux émotions.
Et tu as éclairé la télé, il faut dire la chose. Tu as fait un super concours.
Oui.
En plus, tu as une façon de parler, de sourire et tout ça qui a fait le buzz. Oui. Mais je pense que si on avait eu, je ne sais pas moi, 20 ou 25 médailles, Marie-Julie, malgré que tu aies battu ton record, malgré que tu aies fait une bonne perf, tu n'aurais peut-être pas eu les mêmes compliments. On dit, qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle fait 6e. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, bien sûr.
En fait, les gens se sont raccrochés à ce qu'ils pouvaient, quoi. Il faut dire les choses, c'est ça. Et moi, derrière ma télé, je te l'ai dit tout à l'heure en off, j'étais en colère parce que Marie-Julie, j'ai regardé son concours. Et non, mais c'est vrai, tu l'as vu comme moi.
Oui, oui.
Elle bat son record. Et nous, on n'est pas dans ta tête, ni dans ton corps, mais derrière la télé, tu peux le rebattre. Tu l'as dans les jambes.
Ah oui, le 65,
parce qu'on le voit, on le voit. On a 50 images. Mais Marie-Julie, pour elle, tu vas me dire si je me trompe, hein, t'avais le grôle, quoi, ça y est.
Ah non.
Non.
Ah moi je voulais les 65, honnêtement, j'étais sûre de les passer.
Mais tu pars pas pour le faire, tu pars pas pour le faire.
Honnêtement, si. Je suis au-dessus de la barre, en fait.
Mais oui, t'es au-dessus.
C'est au niveau des poteaux, j'aurais dû avancer mes poteaux. On a fait des choix qui ont fait que finalement je suis pas passée sur des perches qui étaient plus grandes en taille. J'ai voulu travailler sur des petites perches. Et en fait, mes poteaux étaient trop loin, donc je suis large au-dessus, mais je retombe sur mes poteaux.
Et tu retombes avec le sourire en plus, c'est ça.
Oui, mais parce que moi je prends du plaisir, je saute. J'ai déjà. Moi, d'être là, c'était juste déjà incroyable. Donc, chaque moment que j'ai vécu là-bas, j'ai pris du plaisir, que ce soit mon premier saut à 40 ou mon saut à 55 où je bats mon record, j'ai le même smile. Enfin, peut-être un peu
parce
plus.
Qu'il faut peut-être
Tu viens de le dire, Marie-Julie. Tu viens de le dire, c'est incroyable.
Oui.
Pourquoi c'est incroyable ? Pourquoi tu peux pas. Non, c'est normal.
Non, parce que je débute ma saison avec un record à. Enfin, déjà, l'hiver, j'avais un record à 4,16 qui datait de 3 ans. Et d'un coup. Tout me tombe dessus, c'est-à-dire que déjà les championnats de France élite, moi je visais absolument pas un podium de base, finalement je me retrouve à faire deuxième. Ensuite, en fait, toutes les perfs elles sont allées très 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 vite, tout a augmenté d'un coup avec le changement de perche, le changement de coach, et tout m'est tombé dessus, je m'attendais absolument pas à aller au championnat d'Europe. Enfin,
d'accord.
En fait, c'est pour ça que c'était pour moi incroyable à ce moment-là, parce que j'étais pas vraiment préparée à tout ça. Et ça m'est tombé dessus.
Donc j'ai bien fait de ne pas casser ma télé, quoi.
Oui, vraiment.
Non, mais parce qu'il faut peut-être le dire pour les auditeurs qui ne savent pas ça, c'est que le saut à la perche, c'est hyper technique. Il y a beaucoup de réglages à faire, etc. La perche, les poteaux, comme tu disais, la course d'élan. Enfin, il y a énormément de paramètres à gérer. Mmh. Et donc, parfois, on n'a pas le bon réglage. Et on retombe sur la perche alors qu'on est bien au-dessus.
Exactement. Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément, parce que je dis les poteaux comme si tout le monde connaissait, en fait, on peut régler la profondeur justement de la barre qui est réglée sur des taquis. Enfin, bref. En fait, on peut soit les mettre très loin si on a une perche très souple qui va filer.
C'est vous qui choisissez ?
Oui, on peut choisir, c'est
d'accord.
Ça. Et on peut ravancer. Là, dans mon cas, j'avais une perche qui était assez dure, qui déplaçait pas beaucoup, donc il fallait que j'aie les poteaux beaucoup plus près. Et en fait, juste en regardant les vidéos, ça se voit. Mais sur le moment, on s'en est pas forcément rendu compte. Et du coup, c'est quelque chose que je garde en tête. Maintenant, je le sais. Je prendrai ça plus en considération. Et c'est vrai que quand je vois les vidéos, c'est frustrant. C'est frustrant.
C'est en forgeant qu'on devient forgeron, on dit. Hein.
C'est sûr. Mais après, si ça s'est terminé comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça.
Et Solène, parce que tu parlais, Nicolas, tout à l'heure, tu as juste raison, sur la perche où il y a beaucoup de réglages, beaucoup de techniques. Mais le sport de Solène, le sport de Solène qui est la haie, moi c'est la discipline qui me fait peur, quoi. Parce que c'est très dangereux, là.
Moi, Solène, elle me fait peur.
Oui, je crois que je fais quelques frayeurs à mes coéquipiers, à mon coach de temps en temps. C'est très technique. Alors, je suis pas la meilleure techniquement, mais faut gérer sa vitesse dans l'intervalle et le franchissement. Il suffit que la jambe de retour soit un peu trop à contre-temps ou que je la ramène trop rapidement et puis la chute peut vite arriver. Je suis tombée de temps.
Et pourquoi
t'es
partie vers la haie ? Parce que quand on voit tes courses, tu vas vite, quoi.
Pourquoi ? Alors, sur le 100 mètres et le 200 mètres, il y a un moment où je prenais plus forcément de plaisir.
Ah, c'est ça, oui.
Je stagnais un peu, je pense, et j'avais arrêté les haies et ça me manquait. Donc, on avait fait le choix avec Alain de continuer les deux. Et après, le choix s'est fait naturellement de rester sur les haies. Et voilà. Et de toute façon, l'entraînement, je fais du sprint. Donc,
oui, voilà,
le sprint ne me manque pas et je fais les...
L'avis du coach là-dessus ?
Ah ben oui, enfin, Solène, elle va vite. Elle a une vitesse, déjà une vitesse gestuelle qui est très intéressante sur... Sur l'activité qu'elle pratique, sur les haies, puisque, en fait, évidemment, la vitesse de déplacement est importante, mais la vitesse gestuelle l'est encore plus, parce que plus on se déplace vite, plus il faut bouger vite, mm-hmm. parce que les obstacles, eux, ne bougent pas. Mm-hmm. Ils sont toujours à la même hauteur, à la même distance les uns des autres, et il faut les appréhender encore plus vite. Donc, de ce côté-là, elle a un atout qui n'est pas négligeable. Et puis, en plus, elle a peut-être aussi une foulée qui s'adapte plus facilement à la course inter-obstacle mm-hmm. que certains sprinteurs qui pourraient aimer aussi les...
Parce que les haies, ça va se passer de combien là, sur 100 mètres
8,50 m chez les filles.
Ça va très vite, quoi. Tu la vois, la première, la deuxième, ça arrive à une vitesse folle.
Ouais, il y a trois foulées.
Ah oui, ça va vite.
Moi, je rêve du jour où vous aurez une caméra, non mais c'est pas des bêtises que j'ai sur la tête. Parce que j'aimerais ouais. voir l'impulsion, la retombée, la réimpulsion. Ça va être géant, quoi, en fait, non?
Ouais, je sais pas si avec une caméra sur la tête ça rendrait bien.
Je pense pas qu'on se rende vraiment compte.
Ouais, je suis pas sûre.
Parce que les haies, vous les regardez.
Mais
on
verrait arriver les haies, quoi. En fait. Moi, ce que je voudrais voir, c'est voir arriver les haies sur l'athlète, quoi. En fait.
Alors, ça serait peut-être au niveau.
Au niveau du torse.
Du
peut-être.
Torse, ouais.
Peut-être.
Après, je sais qu'il y a des vidéos qui ont été faites comme ça, justement, à la perche. Mais c'est vrai que c'est pas le même ressenti qu'on a.
Mais oui, c'est pas pareil.
Je pense aussi.
Ça donne une idée, mais c'est pas le même ressenti.
Je pense, ouais.
Toi, en fait, la perche, c'est un envol, quoi.
Ouais, mais voilà. Sur la vidéo, on a vraiment le temps de tout regarder. Et quand c'est en vrai, il y a des moments où je ne vois rien. Enfin,
oui, clairement.
Je cours et à l'impulsion, je vois rien. Et juste, je retombe sur le tapis.
Et puis, tout se décide très vite.
Oui, c'est ça.
Ouais, le moment où tu es en haut, et où vous arrivez en bas, il se passe combien de temps à peu près ?
Des microsecondes. En vrai, je me rends pas compte. Je me rends absolument pas compte. Et à ce moment-là, je ne vois rien. J'ai juste des sensations où je sais que j'ai passé la barre ou je ne l'ai pas passée. Je sais que mon corps s'exprime avant même qu'en fait je vois quelque chose. C'est-à-dire je sais que je le sens que j'ai passé la barre. Je crie déjà avant même d'avoir passé complètement. Mais moi je vois rien.
Parce que j'ai une image de la Vinelli Lille. Il est en haut, il rate son saut et en fait il sourit.
Ouais.
Il a le temps de sourire entre le haut et le bas, quoi.
Ah oui, mais parce que lui, il retombe de très haut.
Il retombe d'un peu plus haut.
Il retombe d'un peu plus haut.
Après, j'ai le temps aussi de m'exprimer et de crier en l'air. Généralement, j'ai plein de photos où je suis comme ça, les bras tendus, en train de crier. Mais c'est vrai que ça va quand même un peu moins vite pour lui.
Vous avez une bonne relation entre les hommes et les femmes au niveau de la perche, parce que c'est assez macho, non ? Peut-être la perche, non ?
Oui, en fait, on se taquine un petit peu parce que voilà, les garçons, ils nous disent ah, la perche féminine, c'est pas de la perche. Donc c'est vrai que là-dessus, on essaye de leur donner tort. Mais oui, on s'entend assez bien. Enfin, on s'entraîne ensemble. Moi, par exemple, je m'entraîne avec mon meilleur ami, Zach Palat, qui n'est même pas comme mon meilleur ami, c'est mon frère jumeau, limite. Et je sais qu'il me tire sur les séances. On se motive ensemble. Donc forcément, oui. Ils mettent le fil, par exemple, à 5 mètres. J'ai envie d'aller le toucher avec mes pieds. Donc ça motive.
D'accord.
Est-ce qu'il n'y a pas un mythe autour des sportifs et sportives en général qui serait peut-être, qui ferait peut-être plus de mal au sport qu'on ne le pense, pour en revenir un peu à la question des médias, de la pression, ou peut-être les commentaires déplacés ou les attentes, ça viendrait du fait que beaucoup de gens ne pratiquent pas le sport en question et donc ils ne savent pas ce que ça coûte au niveau entraînement, au niveau implication. Est-ce qu'il n'y aurait pas un décalage entre ça, entre... le commun des mortels, entre guillemets, et les sportifs qui, en fait, eux, sont juste dans leur bulle. Et du coup, il y a une sorte d'incompréhension tout le temps au quotidien.
Oui, je pense qu'il y a quand même un mythe, parce que quand on regarde Usain Bolt, tout est facile, il court vite, il a le temps de s'amuser, enfin voilà. Et quand on regarde, il y a eu un documentaire qui est sorti quelques années après, où on voit qu'il souffre à l'entraînement, que c'est pas facile, que même dans sa tête, il doute. Que voilà, tout n'est pas simple. Et quand on est derrière sa télé et qu'on n'y connaît rien, pour nous, pour les personnes qui n'y s'y connaissent pas, pardon. Pour eux, c'est tout est simple, alors que ce n'est pas le cas, quoi. Donc, je pense que c'est pour ça que certains se permettent des commentaires déplacés, alors que c'est beaucoup d'investissement. Oui.
Puis on est dans une période du sensationnel, que ce soit dans le sport ou autre chose. Bon, on ne va pas commenter un petit accrochage sur l'autoroute. En revanche, l'accident à côté qui fait faire deux ou trois morts, oui, celui-là, il est extraordinaire. Et dans le sport, on est devenu un peu comme ça aussi. En revanche, quand on connaît le milieu, on sait très bien que le dernier de la première série éliminatoire, il s'entraîne autant que celui qui va gagner, quoi. Mais ça, personne ne le sait.
Mais vous qui vous battez toute la semaine, qui vous entraînez, parce que c'est quand même un sacrifice que vous faites. Vous n'allez pas vous entraîner une fois par semaine, c'est tous les jours qu'il faut répéter. Vous arrivez sur une compétition, puis ça se passe pas comme vous voulez, et vous ouvrez l'équipe. Pour les citer, hein. Je les cite à toutes les émissions. C'est vrai. Malheureusement, il n'y a pas toujours quelqu'un qui écrit, qui connaisse votre sport. C'est souvent deux fois des gens qui écrivent parce qu'ils sont journalistes sportifs et ils vont écrire dans le golf, ils vont écrire dans le basket, ils vont écrire dans le... Ça vous fait quoi quand vous lisez des trucs négatifs alors que vous avez sué, vous n'en pouvez plus, puis au fond de vous, vous n'êtes pas bien, quoi, déjà.
Enfin, alors, moi, je ne sais pas, mais c'est vrai que, notamment avec les filles du relais, on a souvent eu des articles pas très élogieux. Bon, alors je sais pas pourquoi, mais au début, ma première réaction, ça me fait un peu rigoler en fait. Je sais pas vraiment pourquoi. Ouais. Je me dis, mais en fait, ils sont à milieu de s'imaginer ce que c'est. Et puis en plus, comment c'est tourné, ça semble très très dramatique. Mais nous, la situation, on la vit pas du tout comme ils la décrivent non plus. Donc, oui, bon, très honnêtement, de toute façon, enfin surtout à l'athlée, je pense que toutes les semaines, malheureusement, on a des articles un peu dans ce style-là, un peu à sensation. Donc. Ouais, bah ça nous fait pas plaisir. Je pense qu'on aimerait être présenté autrement. Après, la réalité, c'est pas celle qui est dépeinte non plus dans le papier. Donc, à la limite.
Oui, mais c'est pas la réalité. Mais le citoyen lambda qui ne sait pas, pour lui, c'est la réalité. Ouais. Il s'imagine ça. C'est du voici gala, quoi.
Ouais. Alors après, je pense aussi que les athlètes, c'est aussi quand on se présente, quand on explique, etc. Enfin voilà, quand on a quelqu'un en face de nous qui n'est pas du tout familier à notre pratique, de lui expliquer comment ça se passe, de lui expliquer aussi les implications. Moi, quand je dis que des fois je m'entraîne deux fois par jour, il y a des personnes qui sont vraiment choquées. Ils disent, mais c'est pas possible, comment tu fais? Je dis, mais en fait, c'est mon quotidien, quoi. Et ils ne s'imaginent pas. Ils s'imaginent que, par exemple, j'imagine que pour Marie-Julie, on doit lui dire, ah, mais tu dois sauter tout le temps. Et nous, on nous dit, mais tu dois courir tout le temps. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Il y a tellement de choses à faire autour de notre pratique. Et voilà, je pense que ça, il y a vraiment besoin de beaucoup plus de pas de communication, mais en fait d'apprentissage autour de ce que c'est le sport de haut niveau et ce à quoi ça peut ressembler, rien que la vie d'un athlète de haut niveau, quoi.
Est-ce qu'on n'aurait pas aussi à faire l'apprentissage au niveau de la presse pour justement vous aider plutôt que vous enfoncer? Tu as cité Usain Bolt tout à l'heure. Moi, j'ai lu un article sur Usain Bolt quand il a commencé à courir moins vite. C'était ses phrases que la nuit, c'était l'alcool, c'était là. Est-ce que ces gens-là étaient à côté de lui ou est-ce qu'ils trinquaient avec lui pour le savoir? Donc, bon, lui, il s'en fout parce qu'il n'a pas besoin de ça, il ne le lit même pas. Mais vous qui lisez la presse française qui est ici et qui n'est pas encore au niveau, il faut dire les choses, d'Usain Bolt, quelque part dans la tête, ça va faire mal. Vous disiez, mais je prends l'exemple de Marie-Julie, oui, alors il y en a qui sont capables d'écrire, elle a raté son saut parce qu'elle a fait la fête la veille. Voilà, c'est gratuit, c'est gratuit, mais au niveau d'une carrière, ça peut faire mal, non, dans la tête d'être comme ça, non?
Je pense que ça dépend de chacun.
Il faut passer par-dessus.
Ça dépend du recul de chacun et... Franchement, c'est dommage.
Et c'est là qu'Alain doit rentrer en scène, non? Peut-être aussi quand il se passe des trucs comme ça, non?
Oui, de toute façon, c'est au quotidien, mais en plus, on a pris l'habitude, nous, enfin, dans notre pratique à nous, de nous entourer d'un groupe qu'on a choisi. C'est-à-dire que les athlètes, on est un petit groupe, je crois même pas une dizaine, on est un petit groupe d'athlètes qui partageront la même activité avec la même foi et les mêmes intentions, quel que soit le niveau. Et puis, ce qui veut dire que quand l'un réussit, c'est un peu tout le monde qui réussit. Lorsqu'il y en a un qui ne réussit pas, au contraire, au lieu de l'accabler, on va pas forcément pleurer avec lui, mais bon, on est à côté de lui pour dire que c'est la vie, qu'il va y avoir autre chose après, quoi. Et ça se passe. Je pense que le groupe est un atout non négligeable, même pour un sport individuel comme l'athlétisme. Pour nous, il nous fait du bien toujours. Enfin, moi, je pense.
Mais d'ailleurs aussi, si je peux rajouter quelque chose, c'est pas que les personnes qui ne connaissent pas notre sport qui peuvent être très critiques. Ah oui, notamment cet hiver avec Alain où on a décidé, de faire. Enfin, j'ai décidé de faire du 400 mètres en salle. C'est pas ma discipline, hein, bien que j'ai vraiment beaucoup aimé courir cette distance-là cet hiver. Alors évidemment, je ne prétendais pas à un podium au championnat de France élite, mais j'étais quand même très, très heureuse de ma performance. Et bien, c'est des personnes, y a eu des remarques de personnes qui connaissent l'athlée. Il y en a qui m'ont vraiment félicité et trouvé que c'était très encourageant, etc. Et puis il y en a d'autres qui connaissent aussi l'athlée et qui complètement... était très critique envers ma perf, comme si c'était une perf au rabais, quoi, en fait. Donc,
on était hors sujet.
Oui, on était hors sujet.
Ça, on ne pourra pas l'empêcher. Au football, il y a 5-4 millions de sélectionneurs. C'est
voilà.
Pareil. Donc,
exactement. C'est ça.
Donc, dès l'instant où on fait quelque chose et qu'on est plus ou moins médiatisé, il y aura toujours le côté critique. Hein. Oui, Mélissa.
On n'en a pas discuté, mais pourquoi vous avez choisi de devenir athlète de haut niveau? Parce que j'imagine qu'il y a plein de raisons. Et une question qui rejoint ma première question, est-ce que vous feriez ce sport sans les à côté un peu glamour? Parce que c'est vrai que dans la tête des gens, on se dit qu'un athlète, ça fait toujours rêver, ça fait toujours... c'est un peu mis sur un piédestal dans notre société. Pourquoi vous, concrètement, vous faites le choix de faire autant de sport à ce niveau-là?
Alors, les côtés glamour, ça dépend pour qui. Parce que, alors, moi, j'ai pas... j'ai un très bon niveau, mais j'ai pas les côtés... Enfin, j'ai pas de sponsor, je ne suis pas invitée à... des grands événements, etc.
Parce qu'il faut le rappeler aussi, hein, oui, qu'il y a des athlètes totalement. De niveau et qui ne bénéficient pas du tout au final du soutien financier.
Exactement, ouais, voilà. Donc voilà, et je suis venue au niveau naturellement parce que j'étais performante, du coup très jeune. J'ai été sélectionnée au championnat du monde cadette. Donc de fil en aiguille, on fait des sélections et on est entraînée dans ce haut niveau. Après, on y reste parce qu'on prend plaisir, que quand on fait une sélection, on va en faire une autre.
Ça, c'est mais... clairement, ouais. Ça motive.
Non,
ça
mais
motive
clairement. Et donc, voilà, quand le corps nous permet de rester à ce niveau-là, on continue. Et tant que le plaisir y est aussi, on continue. Mais ce n'est pas tous les jours facile parce que, oui, on n'est pas des footballeurs, on ne gagne pas des 1000 et des 100. Bon. On n'est pas non plus Renaud Lavillenie, donc on n'a pas... voilà, c'est chaque athlète a son niveau et ses aides à côté, ça dépend chacun. On n'est pas tous pareils, quoi.
Non, c'est sûr.
C'était un peu la question que j'allais poser après. Est-ce qu'on peut vivre de l'athlétisme?
Moi, j'en vis pas.
À très très haut niveau, et si on est vraiment médiatisé, encore pour une femme, c'est encore pire. C'est compliqué, hein. Honnêtement, moi, c'est pour ça que je préfère assurer une carrière aussi à côté et utiliser peut-être justement les contacts que je peux me faire dans le milieu de l'athlétisme pour ensuite avoir un taf qui sera en rapport avec ça, surtout que j'étudie du coup dans le sport business, mais je mise pas tout là-dessus, vraiment pas.
Ça peut vous ouvrir les horizons au niveau des médias, justement, de Absolument. La télé, on voit beaucoup de sportifs de haut niveau qui arrêtent et qui passent derrière le micro, non? Oui. Ça peut le faire aussi, ça.
Oui.
Maroussia, je vais te demander quelque chose, parce que tu fais aussi du relais, tu fais beaucoup de relais, tu es champion du monde sur du relais. Enfin, je demande à toi et à Alain, l'athlétisme, c'est un sport individuel, mais quand on est en relais, on est 4, on est 6, je crois, c'est ça?
Oui, enfin, on est un collectif à la base de 12 filles et on part 6 en championnat, il y en a 4 qui courent.
Voilà, il y en a 4 qui courent, c'est ça. Ouais. Et ça se passe comment un relais? Parce que moi, qui ne suis pas un coureur, je m'imagine, il y en a une qui va moins vite que l'autre, à la fin du relais, il se passe quoi, là? Ça reste collectif ou alors on s'en veut et pourquoi t'as fait ça ou t'as raté le bâton? Comment ça se passe, là?
Après, alors déjà, les positionnements ne sont pas faits au hasard aussi, c'est en fonction des qualités de chacune. Moi, de mon côté, je ne suis pas une athlète je ne suis pas la plus explosive en fait, du collectif. J'ai d'autres qualités qui font que je peux, courir vite. Moi, en général, je suis au deuxième virage.
Ça, 2-3.
Ouais. Donc, en fait, on est positionné en fonction de nos qualités. Maintenant, on prend en compte le temps du bâton, et ça, on peut l'oublier aussi. Alors, il faut que les athlètes courent vite, hein, mais c'est si je cours vite et que je mets, je ne sais pas moi, 5 foulées pour transmettre le témoin, enfin, c'est mort. On sait déjà qu'on va faire une mauvaise perf. Donc, on construit l'équipe en fait en fonction des qualités de chacune. Et ensuite, est-ce qu'on s'en veut? Je ne vais pas aller blâmer ma camarade et la jeter sur la place publique ou dire des choses sur les réseaux sociaux, bien que ça s'est déjà vu. Mais nous, on évolue là maintenant dans un groupe qui est très sain et où on se parle. Après, oui, déjà, je pense que moi, j'ai jamais fait de grosses erreurs en relais. Mais je sais qu'il y a notamment une fois où, je ne sais pas... mes neurones se sont déconnectés, j'ai pas fait ce que j'aurais aimé faire à ce moment-là. Mais enfin, je m'en veux déjà suffisamment. Je sais que les filles sont bien au courant de ce qui s'est passé. Avec le respect qu'elles ont pour moi, elles ne vont pas venir me le remettre sur la table. Donc voilà, c'est encore une fois, on sait que si on va au bout, qu'on fait une belle perf, c'est toute l'équipe qui sera heureuse. Donc voilà, on a ce respect là l'une envers l'autre, parce que la perf de l'autre, de l'une, va influencer celle de l'autre. Donc on sait que voilà, on a besoin d'être bien ensemble pour que ça se passe bien aussi, quoi.
L'athlète français, il fait pas un petit complexe par rapport aux Amériques ou aux trucs comme ça, aux grosses nations?
Non, je trouve pas. Non. Pourquoi? Par rapport à quoi?
Je sais pas, par rapport au résultat, par rapport... Je suis Baroussia, je prends le départ d'un 100 mètres et puis j'ai l'Américaine à côté, comment suis?
Non, mais moi, je peux avoir n'importe qui à côté, même si on me met Bolt à côté, je vais dire, mais je vais le battre.
Franchement, enfin, oui. C'est ça. Oui, non, mais c'est clairement ça, oui.
Je peux revenir sur le relais, juste deux secondes, pour le comparer au sport collectif et au sport collectif que j'ai pratiqué, le rugby. Le passage du témoin, c'est une passe. Et en rugby, toutes les passes ne sont pas réussies. En revanche, celui qui prend un ballon dans de mauvaises conditions, il ne va pas blâmer son partenaire, il va tout faire pour rattraper ce qui ne s'est pas fait avant lui. Donc le relais, ça se court et ça se fait un petit peu dans ces conditions-là. C'est peut-être un rapprochement qu'il ne faut pas hésiter à faire quand on est entraîneur de relais quelque part. Et je sais que dans le groupe de Maroussia, Franck Ney pratique une politique dans ce sens-là qui est très à droite.
Il y a un moment aussi, quand on regarde, quand on est spectateur d'athlétisme, un moment essentiel, je pense, c'est avant que la course commence. On voit, vous faites les 100 pas, vous regardez la ligne d'arrivée, sur les haies, on voit des athlètes qui font déjà les mouvements de franchissement dans le vide. Pour la perche, je suppose que on fait déjà aussi le saut à l'avance. Etc. Comment vous arrivez à gérer ces moments-là d'avant la course ou d'avant la performance, d'avant le saut? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? Je me suis toujours posé cette question-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Personnellement, en tout cas par rapport au saut, c'est vrai que c'est un peu différent par rapport aux filles parce qu'en fait, c'est des moments où, en fait, entre chaque saut, il faut réussir à se reconcentrer. Et autant je suis quelqu'un qui, en concours, n'a pas besoin d'être complètement... constamment énervée comme ça, tendue ni rien, j'ai besoin de parler, j'ai besoin d'être tranquille, mais juste avant mes sauts je me parle beaucoup, c'est à dire que ça me permet d'éviter les pensées négatives, donc je me parle à voix haute, je répète mes mouvements, hop, alors t'appuies vite, tu penses à être grande au début, nanana, et en fait je me répète, voilà tout ça, ce qui me permet de rester un peu dans ma bulle, même si à côté je suis capable d'aller parler aux filles, d'aller manger ma petite compote, voilà. Mais il faut être capable en fait de se reconcentrer avant chaque saut, en fait, c'est ça le truc.
Mais on voit beaucoup de la tête avant ce qu'a dit Nicolas. Justement, ils ont le casque sur les oreilles. Est-ce que c'est un truc mode ou alors c'est vraiment pour vous mettre dans votre bulle, quoi?
Ça dépend de chacun, pareil. Moi, je sais que j'ai la musique à l'échauffement, que c'est pour me mettre dans ma bulle, pour me motiver. Il y en a qui n'aiment pas se mettre la musique avant parce que ça les déconcentre et je pense que ça dépend vraiment de chacun.
Il n'y a pas longtemps que ça a paru, ça. Ça sort du...
Moi, je l'ai toujours. Peut-être le casque,
avant c'était les mini cassettes, c'était plus compliqué.
Après l'athlète, c'est un sport aussi, quand on est sur la zone d'échauffement, enfin on voit que c'est un sport aussi un peu d'intox, de gros bras,
vachement,
de voilà,
oui, surtout
donc,
sur, oui.
C'était ça ma question tout à l'heure par rapport aux pays comme les Américaines et tout, qui sont un peu flambeuses, qui sont un peu voilà.
Je pense que pour les sprinteuses et tout en chambre d'appel, les hurleuses, je pense qu'il y en a qui en font beaucoup pour peut-être pas grand-chose et pour peut-être impressionner, avoir l'ascendant mental sur les autres. Et moi, je sais que à la perche, c'est beaucoup plus chill et je pense aussi sur les épreuves combinées. On est beaucoup plus tranquille en chambre d'appel, il y a moins de paraître et de... Après, vous, c'est différent, l'effort est différent aussi, c'est-à-dire qu'il faut être là directement, alors que nous, ça se passe sur un concours entier. Donc... Mais c'est sûr que la chambre d'appel...
Joris, et après j'ai une question.
Il y a un côté un peu ingrat avec l'athlétisme. J'ai l'impression que c'est des mois, des années de travail. Et il faut briller sur un très court instant. Et dans ce contexte, je me suis toujours demandé comment on fait pour prendre du plaisir à des moments où justement il faut être très concentré, on a l'objectif en tête. Comment on fait pour juste prendre du plaisir tout simplement?
Perso, en tout cas, je prends du plaisir quand je fais de la perf en fait. C'est-à-dire lorsque tout est réglé. Je sais qu'un de mes atouts, c'est justement d'être régulière. Donc... quand je prends ma perche, je sais que ça va passer. Quand je vois qu'il y a de la marge, que la perf elle suit, c'est là vraiment que je prends du plaisir. Ou quand je brave un peu les conditions qui sont difficiles. Donc moi, c'est là où vraiment je m'amuse le plus et où ça fonctionne.
Et justement, juste, c'est pour rebondir, Mélissa, après tu pourras poser ta question. Au niveau de la perche, on peut sauter à l'intérieur, en intérieur, ouais. Et sauter aussi en extérieur.
C'est ça.
En extérieur, il y a beaucoup plus de contraintes.
Ah oui, oui.
Voilà. Et est-ce que toi, tu préfères justement qu'il y a plus de contraintes ou un petit peu moins?
En fait, moi, j'aime bien l'extérieur parce que justement, les contraintes, c'est quelque chose que je gère assez bien. Et justement, ça peut être un avantage en fait pour moi. Donc, je mise tout là-dessus. Quand on est en championnat en extérieur, je me dis, j'espère qu'il va pleuvoir, j'espère qu'il y aura du vent de face. Parce que je sais que ces situations-là, elles me sont familières et que je peux essayer de grappiller justement quelques places sur des mauvaises conditions en championnat. Et c'est ce qui s'est passé au championnat d'Europe en 2019. Enfin, il avait plu. Moi, j'avais prié 3 jours avant pour qu'il pleuve. Il a plu. J'étais la seule en train de rigoler et en train de me dire, OK, c'est bon, ben, c'est un signe, c'est pour moi, c'est. C'était mon moment et je pense que s'il n'avait pas plu à ce moment-là, honnêtement, ça ne serait pas passé.
Donc c'était bien la danse de la pluie que tu faisais juste avant le...
Ah non, ça c'était les championnats d'Europe junior, donc ça c'était en 2019, ouais. Non, non, mais sinon au championnat d'Europe, ouais, il y avait des bonnes conditions, mais tant pis.
Ouais. Vous avez beaucoup évoqué la notion de plaisir dans le cadre de votre sport. Alain a pas mal évoqué les Américains. J'ai une question qui fait le lien entre les deux. C'est vrai qu'on envie souvent les records et les résultats des pays comme les États-Unis. Mais est-ce qu'on n'a pas plus intérêt au final à faire plus attention au bien-être de l'athlète et à son bonheur? C'est-à-dire, est-ce qu'au final, est-ce que c'est pas le chemin qui compte plus que le résultat? Est-ce que dans 20 ou 30 ans, vous n'allez pas plus vous souvenir du kiff que vous aviez à l'entraînement? Par exemple, tu parlais de ton meilleur ami. Ouais. Qu'au final, ce court moment dont tu parlais, Joris, qui dure vraiment à la limite une après-midi, le temps de la célébration, et après c'est plier bagages et puis il faut revenir au quotidien et passer à autre chose. Qu'est-ce que vous pensez de ça?
Moi, je pense que c'est le chemin qui compte, parce que en plus si on prend pas de plaisir à l'entraînement, les perfs ne vont, enfin, ça dépend de
tout
chacun,
est lié,
aussi,
ouais.
Mais c'est quand même lié.
Oui, le chemin s'arrête vite s'il n'y a pas le plaisir,
oui,
et vice versa.
Voilà, c'est ça, c'est qu'on peut vite lâcher l'affaire ou être démotivé à venir à l'entraînement si on prend pas de plaisir. Donc je pense que le chemin est important. Et si le chemin va avec le moment, ouais, c'est encore mieux, c'est la cerise, quoi, voilà, c'est ça. C'est
moi, j'ai quelques images d'athlètes qui sont pas bien au mauvais moment. Et en fait, à mon avis, pour moi, le plus important, c'est qu'ils se retrouvent eux-mêmes. C'est que, quelles que soient les circonstances, ils arrivent à être eux-mêmes sur le moment où il faut faire la chose, il faut courir ou il faut sauter. On peut être dans des conditions pour sauter, par exemple, 5 mètres, je dis n'importe quoi. Ou être dans des conditions où, punaise, mais 4,20 c'est trop haut, je vais pas y arriver, ça fait rien. Sois toi-même, qu'on te reconnaisse au moment où tu vas sauter, qu'on sache qui c'est qui saute et qu'on te voit comme tu es. Et là, je pense que si on arrive à faire ça, déjà on sauve au moins la moitié de l'individu.
C'est sûr.
On va parler un petit peu de l'avenir. Tout le monde parle de Paris 2024. Je pense que vous êtes appelés toutes les trois à être au moins en compétition pour y arriver, quoi. Dans la tête, on est en 2022, ça vous empêche de dormir ou ça se passe comment?
Pas du tout.
C'est un but extrême ou non, tant pis.
Non,
ça ne nous empêche pas. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je dors très bien. Je n'ai pas de problème de trouble du sommeil lié à Paris 2024. Paris 2024, c'est encore très loin. Et ce qui va s'y passer encore, en attendant, il y a des étapes intermédiaires à franchir et il vaut mieux se concentrer là-dessus. Hein. La performance, elle ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vraiment des petites marches à franchir tous les jours. Donc, je vais déjà remplir correctement les objectifs de mes entraînements. Et puis ensuite, on verra pour le reste. Ce sera la ligne d'arrivée Paris 2024. Et ensuite, ce sera la célébration quand il y aura les perfs. Mais avant, il y a déjà à faire. Donc, on va se concentrer là-dessus, pour ma part en tout cas.
Mais je suis assez d'accord.
Marie ?
Moi, c'est vrai que c'est un objectif plutôt à court terme parce que j'ai l'impression que tout va arriver très, très vite. Mais ça me motive vraiment. Surtout que là, en ce moment, je prends vraiment conscience des choses. Et comme je vous l'ai dit, tout m'est tombé dessus d'un coup. C'est-à-dire que moi, j'y croyais pas. Plus vraiment, parce que être bloqué à 4,16 pendant 3 ans, à 2 ans des Jeux, on se dit c'est compliqué de jouer une qualif à 4,70 m ou quoi. Donc c'est vrai que là, ça paraît beaucoup plus concret. Et je pense que le projet me stimule et me donne envie justement de venir à l'entraînement avec ça en tête. Enfin, parfois, je fais mes répétitions et je me dis, vas-y, fais la dernière. Comme ça, tu seras beaucoup plus performante et tu seras la meilleure. Et je me dis, je suis au 2024, ça me motive. C'est horrible, mais c'est vrai que ça me motive. Donc je pense qu'il ne faut pas bloquer non plus là-dessus.
Non.
C'est-à-dire, si ça arrive, tant mieux et je ferai tout pour que ça arrive. si ça arrive pas, j'ai pas envie de dire tant pis, parce que ça sera pas le cas dans ma tête.
Mais ça te motive quand même à tes entraînements, tu veux dire. Oui, c'est quand même derrière ta tête. Quoi.
Carrément.
Tu penses pas au prochain championnat de France, tu penses au JO.
Si, je pense au prochain championnat de France pour être paré pour les JO en fait.
Ouais.
En fait, j'ai besoin d'acquérir actuellement de l'expérience pour arriver aux JO dans les meilleures conditions.
Oui, c'est ça. Sur des étapes.
Oui, c'est ça, parce que si on arrive aux Jeux et qu'on n'a pas l'expérience nécessaire, on peut très bien faire de mauvaises performances par ce manque d'expérience ou
être impressionné.
Voilà, c'est ça. Et les étapes, je pense, sont très importantes pour être le plus performante possible.
Et Solène, je te demande une question parce qu'on parle de championnat de France, on parle de JO, tout ça. T'es championne des Jeux méditerranéens cet été.
Oui.
Tu peux expliquer à nos auditeurs ce que c'est les Jeux méditerranéens, pardon.
Alors du coup, c'est une compétition qui accueille plusieurs sports. Donc je pourrais pas vous dire tous les sports, mais il y avait l'athlétisme, l'haltérophilie,
la boxe,
oui. Il y avait la lutte. Il y avait le volley, peut-être pas en même temps que nous, mais non. Ça me dit rien. Il y avait le foot, le volleyball, le basket à trois. Enfin bon, voilà, tout ça. Et c'était pour les pays qui sont de la Méditerranée.
C'est-à-dire les Nord-Africains, Nord-Africains, France,
oui,
Italie,
voilà,
Portugal,
Italie,
Espagne.
Espagne
voilà. Parce que je voulais que tu cites.
Excusez-moi. Voilà, donc c'était ces pays-là. Et voilà, on était réunis pendant 15... Enfin, nous, on est restés une semaine, mais les championnats, c'était 15 jours.
Donc c'est un bon niveau quand même, c'est un niveau...
C'était un très bon niveau, il y avait des personnes qui font les championnats du monde, les championnats d'Europe, qui les ont fait après. Enfin, oui, c'est un très bon niveau. Et j'ai eu la chance de faire une médaille d'or, donc je suis très contente.
J'ai juste une question parce que j'ai pas mal d'amis qui étaient là-bas et qui m'ont rapporté que justement les Français se faisaient huer. Donc
oui,
je voulais savoir si ça avait été ton cas ou pas.
Et pourquoi?
Oui.
Parce qu'en fait c'était en Algérie, c'est ça?
Oui, c'est le jour de l'indépendance de l'Algérie.
Ah oui, c'était d'accord.
C'était pas forcément le jour J. Enfin, tous les Français, que ce soit dès qu'il y avait la Marseillaise, se faisaient huer, que ce soit sur les podiums ou en ouverture de cérémonie pour le volley ou le foot, enfin peu importe. Dès que la Marseillaise résonnait, il y avait des sifflements.
Même pour les concours,
ouais,
j'ai vu des images.
Et par contre, oui, il y en a certains, oui. Mais tout le monde n'a pas été sifflé, mais il y en a beaucoup qui ont été sifflés aussi pendant leur pratique. Ouais. J'ai pas eu ce cas-là pour moi, mais j'ai été...
Et ça vous fait quoi dans la tête quand vous voyez les abrutis, on va dire?
Alors, moi, je me suis préparée mentalement parce que j'avais déjà vu et puis... Oui, voilà, il faut juste se mettre dans sa bulle. Je sais qu'en série, j'étais tellement dans ma bulle que je n'ai pas entendu ma présentation. Donc, je pense que voilà.
C'est le taf.
Et puis, pour le podium, par contre, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas été sifflée quand on m'a appelée. Donc, donc ça, c'est cool. Mais dès qu'il y a eu la Marseillaise, du coup, je n'ai pas pu profiter pleinement de la Marseillaise. Parce que, voilà.
Vous êtes trois femmes, championnes. Quand on ouvre la télévision, on voit ce qui se passe dans les pays étrangers au niveau des sports, les femmes qui peuvent être... cette condition féminine, quand on parle de l'Iran, parce que malheureusement on en parle actuellement et moi ça me secoue assez, vous en pensez quoi? C'est acceptable, c'est pas acceptable, c'est à gérer, ou alors est-ce qu'on doit s'en mêler, qu'est-ce qu'on doit faire pour le sport, pour la femme, quoi?
Mais alors moi quand je suis en sélection ou que je suis amenée à rencontrer des personnes d'autres pays en meeting, que je partage la chambre avec des personnes d'autres pays, d'autres cultures, en fait, c'est avant tout un partage, un échange, et on se rend compte que voilà, il y a plein de choses qui nous intriguent de leur côté comme du mien. Et en fait, c'est juste une richesse en fait folle. Enfin, je sais pas dans quelles autres conditions on peut autant partager avec les personnes. Donc effectivement, je pense que le sport est là pour... c'est comme un médiateur, quelque part aussi, comme un témoin entre les différentes cultures. Et ça serait bien qu'il soit utilisé à bon escient, quoi.
Ouais. On voit beaucoup de villes et de pays qui vont boycotter la Coupe du Monde au Qatar. Il n'y aura plus d'écran géant et tout ça. Oui. Est-ce que vous, au niveau de l'athlète, vous n'avez pas la possibilité de faire ressurgir, faire vivre aux gens qui ne connaissent pas ces conditions féminines, parce qu'il y a des pays où les femmes ne peuvent pas courir, elles ne peuvent pas sauter, elles peuvent rien faire, et pourtant c'est peut-être des sources de championnes, peut-être, parce qu'il y en a partout. Et est-ce que vous, à votre petite échelle, quand vous faites un championnat d'Europe, vous ne pouvez pas essayer de faire quelque chose, de faire bouger les choses?
C'est difficile, après, de notre côté, à notre échelle. Enfin, je parle pour moi. C'est quand même difficile, c'est quand même cavalier. Après, Encore une fois, on est sportif, on a des convictions qui voilà des convictions politiques, des convictions aussi dans tout ce qui est conditions humaines, droits des femmes, etc. Mais vraiment c'est compliqué d'endosser en fait une conviction, enfin de l'embrasser pleinement lorsqu'on pratique parce que on doit déjà se gérer nous dans la compétition, gérer le reste à côté, mais n'empêche que si on voit, voilà, enfin moi par exemple j'ai été en chambre avec une Moldave, une lanceuse Moldave, enfin c'était juste trop bien quoi, c'était, enfin elle m'a parlé de son pays, je me suis dit mais c'est génial, alors que jamais de la vie j'aurais imaginé me dire mais trop bien la Moldavie quoi.
C'est que ça se trouve.
Mais c'est ça, donc vraiment voilà, et ça on le voit, enfin on le voit à chaque fois qu'on discute avec eux, et je regrette aussi notamment un autre problème aussi par rapport à la sanction russe et au fait que les athlètes russes n'aient pas pu participer. Je trouve que c'est regrettable aussi. Parce
tu les regrettes, toi, qu'ils ne participent pas?
Ah oui, 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 ça, j'ai pas de problème à le dire, parce que je vois pas ce que les athlètes ont à faire avec la politique.
Mais justement, c'est pour faire raisonner. C'est pour faire raisonner. Il faut marquer quelque chose. Moi, j'étais au téléphone hier, j'ai parlé tout à l'heure avec Mayer Monchipour, je sais pas si ça vous parle. C'est un franco-iranien qui a été 3 fois champion du monde de boxe hier, et il se sert. Il est à la retraite, et il est plus dans les activités, il n'est plus rien. Hein. Il travaille dans le sport à Poitiers. Mais il continue à se battre sur les réseaux, à la télé, tout ça, par rapport à son image sportive, pour défendre cette cause où on voit des gens tomber, on voit des femmes mourir dans les manifestations, et c'est pas normal. Bon, là, on va pas rentrer dans les trucs politiques, moi je parle au niveau du sport.
Oui, mais tu l'as dit, il est plus en compétition, il est plus sportif de haut niveau. Il peut se permettre de faire ça parce que justement, il a un petit peu en dehors du ring. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est quand même plus difficile qu'un sportif doit déjà performer, doit être vraiment au top niveau, qu'il endosse aussi un autre costume.
Oui. On prend des risques aussi.
Oui, c'est beaucoup de...
Oui, c'est ça. On s'expose, oui, des personnes qui peuvent justement en profiter pour nous attaquer. Je pense qu'on a... C'est dur aussi déjà de gérer les attaques par rapport aux performances, tout ça. Si en plus les personnes qui sont contre notre idéologie s'en prennent aussi à nous, ça fait du poids en plus. Je pense que c'est dur à gérer, mais que forcément c'est des causes qui tiennent à cœur et que je pense qu'on a tout envie de défendre, mais à notre niveau c'est compliqué.
Mais on va remonter il y a longtemps dans l'histoire. Je me souviens d'un athlète, vous vous rappelez, un athlète noir qui était médaillé, qui avait refusé au temps de... C'était après la guerre, je crois, au temps des SS. Avait refusé de prendre sa médaille, avait refusé les choses. Il n'avait pas regardé qu'il était athlète, quoi. Il avait fait bouger les choses. Et au jour d'aujourd'hui, on en parle encore de ça.
Oui, d'accord, mais je crois qu'il a eu des sanctions derrière. Il a eu des sanctions et personne n'en a parlé. C'est resté sur le moment, l'image, et ça a servi à d'autres, mais lui, ça lui a desservi.
Oui, mais les sanctions à cette époque, elles étaient comme tu as dit, personne n'en a parlé parce qu'il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas tout ça. Mais maintenant, je pense qu'une sanction sur un sportif qui prendrait fait et cause pour quelque chose d'humanitaire.
On n'a pas le droit. Hein. En compétition, on n'a pas le droit d'exprimer.
C'est là que je voulais en venir.
On n'a pas le droit.
En revanche, pour en revenir à ce que tu disais sur les athlètes russes, il y a deux façons d'agir. Il y a celle à laquelle on assiste actuellement, c'est de les exclure. Et puis, il y a peut-être l'autre façon, c'est peut-être aussi de les inclure, de les amener quelque part où ils peuvent rencontrer et connaître autre chose que ce qu'on leur raconte. Or là, de les exclure complètement, je ne sais pas comment on peut les faire changer de position ou d'idée. Je ne sais pas si l'idée est bonne.
S'ils sont sans drapeau, pourquoi les exclure?
Entre autres, regardez le tennis.
S'ils ne représentent pas au tennis, ils jouent les matchs. Hein,
et puis, ils ne pensent pas tous... Pareil, c'est
sûr que non.
Oui, il y a aussi des victimes chez les Russes.
Mais c'est pas c'est mon idée personnelle, c'est pas l'athlète russe qu'on sanctionne.
Oui, c'est le pays.
Mais on le sanctionne quand même.
Oui, mais le pays, il est composé d'individus qui souffrent aussi de la situation.
Si on montre rien et qu'on fait rien, il se passe quoi? Là, le Qatar. Bon, moi, j'ai écrit une bêtise sur le Facebook. C'est vrai, parce que ça me dépasse. Quand je prends l'exemple d'Hormic à Bordeaux qui dit « je vais pas mettre d'écran géant », il punit qui? Les Qataris s'en foutent et les vendraient chez les merguez qui vont être vendus ou des Cronenbourg au bord. Non, mais c'est vrai, ils n'en ont rien à cirer. Donc, ils punissent qui? Ils punissent nous,
les amateurs. Mais non, c'est pas comparable parce que déjà, les gens peuvent quand même accéder au match s'ils ont envie. C'est juste, c'est plus symbolique de montrer qu'en fait, la ville, la municipalité ne soutient pas quand même quelque chose d'atroce où il y a eu 6500 morts qu'on construit, enfin, une aberration à la fois sociétale, écologique. Que personne ne soutient, donc je pense pas que ce soit au même niveau, en tout cas, enfin c'est mon avis personnel, donc c'est quand même moins grave qu'il n'y ait pas des fanzones que blâmer des citoyens qui cautionnent même pas, qui sont eux aussi victimes de la guerre de leur propre pays.
D'ailleurs, la Russie est-elle au championnat du monde de foot? Question.
Alors, bonne question, j'ai pas suivi, je crois pas.
Non, je crois pas.
Je crois qu'ils
étaient pas.
Je crois qu'ils se sont pas qualifiés, non, c'est ça? Non, je sais pas. Alors là, j'avoue que
la colle.
Là, tu poses une bonne question.
Oui, ouais, c'est la bonne question.
Mais il me semble qu'ils n'y sont pas. Il
je crois pas.
Mais à côté de ça, vous avez un petit peu raison, parce qu'on accepte les athlètes ukrainiens. Bon, c'est un conflit entre deux nations qui a commencé, qui a débuté. Bon, on n'est pas dans les petits papiers, donc vous avez peut-être raison, on punit les deux, on punit personne. Et puis, mais moi, je crois que c'est... On est obligé de passer par là.
Je ne sais pas, parce que moi, il n'y a qu'à voir les grosses sanctions que l'on prend économiquement. Est-ce qu'elles ont un poids sur la guerre? Pour l'instant, on peut en douter.
Pour l'instant, elles ont un poids sur nous, plutôt.
Alors, les athlètes, je ne vois pas quel poids ça peut...
Après, Alain, il y a aussi on va venir à une petite question que je voulais vous poser. C'est au niveau de l'athlète, on le sait, le dopage. il faut piquer où ça, voilà. Et malheureusement, c'est pas le gars de Poitiers ou de Mizitou là qui se dope.
Parce que
je vous aurais posé la question autrement, vous m'auriez pas répondu comme ça.
Ah si si, parce que.
Alors allons-y.
Dernièrement d'ailleurs, il y a une demi-fondeuse qui a été, condamnée avec un an de sursis.
Il y en a une qui était droguée à son insu, de son plein gré.
Non pas elle, je parle d'une. Non, une autre qui a été, c'est sortie là dernièrement. Elle avait des produits stupéfiants sur elle et elle a été condamnée.
Oui, mais c'est un pour mille, non?
C'est un pour mille,
c'est pas généralisé.
Ah, mais vous savez, il y en a quand même, il y en a qui sont juste moins connus et donc dont on parle moins, mais ça existe en France comme ailleurs.
Ça vous fait pas péter les plombs des fois quand vous voyez des performances qui sont au-delà de
l'imaginaire? Bien sûr, mais ça, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire à part nous être propres? Voilà.
C'est qui les fait ces performances au-dessus du... C'est quel pays en principe? Non
bah, franchement, il y a de tout. Si on parle de pays qui sont plus souvent sous les feux des projecteurs, c'est le Kenya, les Russes, comme à une époque c'était l'Allemagne ou la Chine. Voilà.
Moi, quand je vois courir les Kenyans, je me dis c'est pas possible. Quoi. Comment ils font? Ils ont un petit moteur.
Après, ils n'ont pas la même culture aussi.
Ouais. Non, mais là-bas, c'est dans la culture de courir. C'est un peu le sport national. Quand on voit comment ils s'entraînent.
Mais il arrive un moment où le corps, c'est le corps.
C'est comme un Jamaïque. Comment un petit pays comme ça peut générer autant de champions? On peut se poser la question. Mais il y a le côté culturel aussi.
Oui, puis comme disait Marie.
Pour parler de la Jamaïque, par exemple, ils viennent d'avoir leur agence antidopage depuis cette année.
Super. Il était temps.
Mais comme disait Marie, pour certains, ils pratiquent pour gagner leur pain parce que sinon ils ont rien d'autre, quoi. Donc, peut-être que ça motive. Bon, des fois, ça motive à se doper aussi.
C'est ça.
Faut pas se mentir. Ouais. Mais, le dopage est partout, plus dans certains pays, mais ici, il y en a aussi.
Mais ici, là, dans les courses amateurs, sur les courses sur route, mais je pense que s'il y a des contrôles sérieux qui sont faits, on a les résultats. Je pense qu'on aurait beaucoup de surprises. Vraiment, vraiment, en fait. C'est, alors, soit c'est du dopage, soit c'est des conduites dopantes aussi, avec des personnes qui flirtent avec la limite, qui sont un petit peu... voilà, donc... Il y en a toujours et dans tous les niveaux, en fait. Dans tous les niveaux,
j'ai eu l'occasion de le voir parce que dans mon activité professionnelle, je suis dans le milieu pharmaceutique depuis 36 ans. Et j'ai travaillé avec des... Vous savez, quand vous allez vous faire la petite piqûre pour voir si vous êtes en bonne santé. Là. Et je ne vais pas citer les noms, mais j'ai trouvé des sportifs de haut niveau, mais vraiment de haut niveau, qui étaient là 3 fois par jour. Et certains médecins que tu as dû connaître, qui étaient installés à Talence, tu as dû connaître, Alain ?
Oui.
Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Est parti en prison un an après. Bon, moi, ça m'a enlevé un bon contrat, mais voilà. Et ces gens-là faisaient des performances au-dessus de tout. Et un jour, j'ai mon fils aîné qui était au niveau football, qui se blesse. Et moi, je l'emmène en toute confiance à ce gars-là. Et de suite, il a proposé les herbes, pas les herbes, mais bon, on va dire voilà. voilà. Et il jouait en régional, quoi. Donc,
je suis tout à fait
d'accord avec vous. Les objectifs, les filles, là, maintenant, c'est quoi alors?
Bah, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est déjà de me focaliser sur la saison hivernale qui arrive, qui va être plutôt courte. Mmh. Et puis ensuite, il y a de beaux championnats encore cet été. Donc voilà, courir vite, encore plus vite.
Marie-Julie, sautez plus haut, sautez plus haut.
toujours plus haut. Non, ouais, moi, ça va être beaucoup d'objectifs en fait, techniques qui vont me mener justement à de la performance. Parce que techniquement, mais j'ai tellement de choses à apprendre à la perche que... Je sais que j'ai de la marge de progression à ce niveau-là et c'est ça qui est aussi cool. Mais du coup, en termes de perf, forcément, faire les championnats de France, avoir aussi les championnats d'Europe, pardon, espoir. Donc là-bas, il faut absolument que... Enfin, pas absolument, mais j'aimerais bien avoir un titre. Donc je vais tout faire pour être au meilleur niveau là-bas et faire aussi les sélections chez les seniors, quoi. Donc,
la différence entre espoir et élite, c'est quoi?
Ah, en fait, espoir, c'est une catégorie d'âge, donc c'est les moins de 23 ans.
Bah, c'est l'âge, c'est pas c'est la ça. Performance non. qui compte, non, c'est l'âge. Tu peux très bien être en espoir et aller plus haut qu'en élite.
Ah, oui, bien sûr, bien sûr. Donc oui, c'est par rapport aux moins de 23 ans. Donc voilà, faire les sélections ben, justement chez les vieux.
Oh là
aïe, ça va te couper, ça va te couper. Ça va te couper.
Bah non, on est en direct.
Mais c'est en direct.
Les sélections c'est chez les seniors pour prendre justement de l'expérience et mieux aborder les championnats.
Le podcast va faire le tour sur Facebook.
Désolé, désolé.
Et Solène
bah pareil, cet hiver, il y a les championnats d'Europe, ouais. Si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, et essayer de me qualifier, d'être au meilleur de ma forme à ce moment-là. Et cet été, pareil, il y a les mondes. Donc ouais. Voilà, étape par étape, et puis être en bonne santé et prendre du plaisir.
Je crois qu'on arrive à la fin, là, mais on voulait que ça s'arrête pas cette émission. Je voulais juste dire à mes auditeurs, parce qu'il n'y a pas de caméra, on ne voit pas, c'est qu'on a trois athlètes là, qui sont de haut niveau, il faut le dire, qui, quand on les voit à la télé, eh bien, on a envie de les approcher. On se dit non, on ne peut pas, on ne pourra pas. Je peux vous garantir qu'elles ont le sourire, elles sont sympas, elles sont cool, et il n'y a pas de business, il n'y a rien du tout. Quoi. C'est vraiment sympa. Merci les filles. Merci.
Avec plaisir, merci de nous avoir reçus.
Merci Campus Bordeaux.
88.1.
Et c'est à présent la fin de cette émission. On a largement dépassé le temps qui était prévu, mais en tout cas, un grand merci à toutes les trois d'être venues sur notre antenne pour répondre à nos questions. On vous souhaite bel succès, la réussite, une très bonne continuation. Et puis merci beaucoup Alain, à l'entraîneur aussi, d'être venu nous éclairer de ses lumières. Et merci à Nicolas, Joris et Alain Bis, du coup, pour le coup, aujourd'hui. En tout cas, on vous souhaite un excellent après-midi sur nos ondes. On se quitte en musique et puis à très bientôt.